libre radio noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimule brasier, tumulte et sédition. Libre radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org.
Allô?
Bonjour.
Hey, salut Roxane.
Bonjour, bonjour.
Comment vas-tu? C'est bien? Depuis tout à l'heure, tout va bien?
Tout va bien, tout va bien. Dis-moi.
Alors écoute, avant que tu ne te présentes, j'aurais voulu immédiatement commencer avec un slogan que l'on entend beaucoup ici et qui, si j'ai bien compris, est un des slogans centraux de ce qui se passe en ce moment au Chili. Voici ce slogan et j'aimerais bien que tu nous le commentes. Alors, je le cite, c'est « ils nous ont tant volé qu'ils nous ont même pris notre peur ». Alors, est-ce exact? Est-ce un slogan central que l'on entend beaucoup à Santiago? Et comment est-ce que tu réagis par rapport à ça?
Ok, oui, c'est un des slogans centraux, effectivement. Il y en a des autres aussi, par exemple, « le Chili s'est réveillé ». C'est un peu la même idée, non?
Oui. Alors, voilà, voudrais-tu développer par rapport à ça? Parce qu'entre nous ici, on a justement évoqué cette notion, on a parlé du passé du Chili, on a parlé de l'époque de Pinochet, on a parlé de ces moments de terreur. Et la conclusion à laquelle on arrive à peu près de manière consensuelle, c'est de dire que oui, d'une certaine manière, le passé ressurgit, qu'il se reproduit, mais pas complètement. Et notamment parce que les gens restent dans la rue, continue, défie le pouvoir pour de vrai, défie l'état d'urgence, défie le couvre-feu. Et alors voilà, il me semble que ce slogan, ils nous ont envolé, qu'ils nous ont même pris notre peur, est assez emblématique de l'attitude et de l'état d'esprit qui habitent les personnes qui sont dans la rue.
Oui, complètement, c'est complètement vrai. Même il y a beaucoup de pancartes des personnes un peu plus âgées, 60, 70 ans, qui disent « merci les jeunes » pour avoir fait tout ça. Nous, on a encore peur. Nous, on est restés en silence pendant beaucoup d'années parce qu'on avait peur. Donc, c'est une manifestation, c'est aussi des jeunes. Parce que tu vois, de 10 manifestants, 7 sont des gens de 30 ans, 15, 20 ans, entre 15 et 30 ans.
D'accord. Alors,
les trois autres, c'est des gens de 50, 60, 70 ans. Donc, c'est un mouvement, bien sûr, c'est transversal, mais c'est les jeunes qui ont commencé.
Oui, voilà, on a évoqué ça, l'évasion massive, les collégiens et les étudiants qui, effectivement, ont initié finalement ce mouvement. Selon toi, alors déjà, Roxane, maintenant tu pourrais te présenter. Voudrais-tu nous dire en quelques mots qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et où es-tu?
Bon, tout d'abord, je veux m'excuser pour mon français parce qu'il n'est pas trop parfait. Je vis depuis 25 ans au Chili, après avoir vécu plus ou moins 20-25 en Suisse. Je suis journaliste, je travaille à l'Université du Chili. Et voilà. Et j'ai vécu tout sous mon mouvement. Je suis allée aux manifs. Je suis très, très, très engagée.
Actuellement, tu es à Santiago?
Actuellement, je suis à Santiago du Chili, ouais.
D'accord. Et alors, voilà, on l'a dit tout à l'heure. Alors, bien entendu, Esteban et Jorge prendront les micros et poseront les questions au moment qui leur semble opportun. Moi, j'aurais envie que l'on commence par ton ressenti et ton état d'esprit à toi au lendemain d'une manifestation incroyable. Cette nuit, nous étions tous collés à nos ordinateurs pour assister à ce million ou même plus de personnes qui étaient dans la rue. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Il y a là un moment charnière, comme disait Jorge tout à l'heure. On peut dire peut-être qu'il y a là quelque chose, une masse critique qui est atteinte.
Oui, écoute, maintenant, j'ai un sentiment ambivalent. Bien sûr, je suis très émue, très contente. Il y a un slogan qui est là au Chili qui dit « le Chili s'est réveillé ». Effectivement, on a la sensation que le Chili, d'un coup, s'est réveillé Et donc, il y a une ambiance de joie, de beaucoup d'espoir, d'avoir la sensation qu'on peut changer les choses. Ça, c'est une émotion très forte, je pense que pour tout le monde. Mais d'un autre côté, je disais un sentiment ambivalent parce qu'il y a quand même eu 18 morts. Il y a beaucoup de détenus, plus de 1500 blessés. Il y a beaucoup de répression, surtout pour les femmes. Il y a des abus contre les femmes, des déshabillages, ils leur font faire des squats toutes nues, les bâtons dans les vagins. Donc, il y a aussi ce sentiment un peu encore d'abus, surtout de la police et des militaires. Donc, c'est un peu un sentiment ambivalent, mais bien sûr, on sent beaucoup de joie et surtout beaucoup d'espoir que les choses vont changer.
Oui, cette répression dont tu parles, elle est féroce. On l'explique comment ? Cette répression féroce à laquelle on assiste, comment l'explique-t-on ? Parce qu'on entend parler ici de choses incroyables, on entend parler de tirs à balles réelles, on entend parler de disparitions, de viols, des choses incroyables qui justement nous replongent dans ce passé funeste de la dictature pinochettiste. Est-ce qu'on peut dire
Bien sûr, il y a un traumatisme, surtout des gens un peu plus âgés. Il y a un traumatisme, il y a la peur. Il y a beaucoup de parents, des enfants de 18 qui ne veulent pas que les jeunes manifestent. Bien sûr, il y a ce traumatisme. On se rappelle beaucoup, on a vu les militaires dans les rues. Moi, je vis depuis 20 ans, 25 ans au Chili. Je crois que c'est la deuxième fois que je vois les militaires. La première, c'est quand je suis arrivée au Chili, il y avait encore... il était là, Pinochet encore, et puis cette fois-ci. Donc, c'est vraiment ça, ils font peur, ils font vraiment peur. Mais je crois qu'il y a une jeunesse, il y a beaucoup de gens qui ont pu vaincre cette peur, et puis il y a effectivement une désobéissance civile. Et cette désobéissance civile est contre le couvre-feu, par exemple, et contre les militaires. Donc, je crois qu'il y a un tel mal à l'aise dans les gens qu'ils font cette désobéissance civile.
D'accord.
Donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération aussi qui est née avec la démocratie, qui n'a pas cette peur si grande qu'ont eu nos parents ou moi-même, parce que j'ai écouté à la maison beaucoup de fois la dictature et tout. Toutes les violations aux droits de l'homme et des femmes. Moi aussi, j'ai peur, mais je crois que les jeunes, ils n'ont plus peur.
D'accord. Nous avons entendu, le 20 octobre, le président Piñera déclarait « Nous sommes en guerre ». On voit là le vrai visage d'un gouvernement qui avançait masqué, selon toi ?
Bien sûr, lui, tout a commencé avec l'augmentation du prix du métro et avec les manifestations des jeunes du collège entre 14 et 18 ans. Ils rentraient dans le métro, ils ouvraient les torniquets du métro et ils laissaient passer les gens gratuitement. Moi aussi, je suis passée par là. Tout le monde était content parce qu'en fait, ils économisaient un peu de sous, 3 à 4 francs, chaque fois que tu passais, sans payer. Mais le gouvernement, ce qu'il a fait, il a envoyé les forces de l'ordre, la police, pour réprimer et supprimer ces manifestations pacifiques. Et puis... en fait, ce qu'il fait, c'est criminaliser les manifestations. Donc, le jour d'après, il décrète le couvre-feu et l'état d'urgence. Et il déclare la guerre. Il dit, on est en guerre, c'est des groupes organisés. Et puis donc, ça, tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Et cela a déclenché l'indignation de beaucoup de secteurs de la population. D'une manif qui était... des jeunes très jeunes, des enfants, parce que de 14 à 18 ans, ce sont encore des enfants. Il a déclenché l'indignation des secteurs de la population. On a commencé à manifester dans les ports du métro le vendredi 18 octobre. Et puis effectivement, le samedi 19, il décrète le couvre-feu et il dit qu'on est en pleine guerre. C'était incroyable parce qu'il n'y avait pas vraiment de guerre. Il y avait des gens qui se manifestaient pacifiquement. Nous, on disait, mais c'est complètement fou. Le discours du gouvernement, c'était vraiment comme ils vivaient dans un autre monde. Nous, on était dans un monde et eux, dans un autre, parce que vraiment, on ne comprenait pas où était la guerre.
Esteban et Jorge ont des questions pour toi.
Oui, bonjour Roxana. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi.
Bonjour.
Ici, on essaye de, en tant que Chilien, à faire une analyse sur les médias et la communication, notamment en ce qui nous concerne, le traitement médiatique ici, il est international et ici en Suisse, en Europe. Bon, les journaux, la télévision, ici, a parlé de manière évidemment très synthétique. J'ai l'impression qu'ici, en Suisse, en Europe, le traitement médiatique, c'est le suivant. Et je voudrais, si tu pouvais le commenter, que le peuple chilien, d'abord, a explosé socialement et est rentré en émeute, en insurrection. Et il y a eu des violences, des incendies, etc. Ce qui a obligé le président Piñera à décréter l'état d'urgence. Ou la thèse que j'essaye de défendre, c'est que c'est le décret d'état d'urgence qui a provoqué l'indignation et l'explosion sociale. Je dirais d'un point de vue conjoncturel, parce qu'évidemment tout ça vient de loin. Mais dans cette conjoncture, est-ce que tu pourrais donner ton avis sur ces deux types d'interprétations ?
Oui, bon, d'abord je suis journaliste, donc je connais assez bien ce que sont les médias au Chili. Il y a quatre chaînes de télévision. Toutes les chaînes de télévision sont des propriétaires, les grands richesses, disons, ou les grands riches du Chili. Donc, tout le discours des médias a suivi le discours du gouvernement de criminaliser les manifestations. Donc, on a vu les premiers jours, vraiment, c'était les reportages sur les pillages, sur les feux, les incendies, etc. Donc, je crois qu'il y a eu vraiment une intentionnalité, je ne sais pas si on dit comme ça, d'un discours de criminalisation du mouvement. Moi, je pense que les manifestations, oui, je ne pense pas que se sont déclenchées à cause du couvre-feu et de dire qu'on a commencé la guerre, quand le président Piñera l'a dit. Je pense que ça vient de l'indignation des gens en général, parce qu'il y a un malaise social, je pense que pour deux choses. Une, pour le coût de la vie, effectivement, c'est un pays très cher. Sur tous les aspects de la vie, tous les aspects de la vie sont privatisés, l'école, l'éducation. Moi, un tiers de mon salaire, c'est pour payer l'école de ma fille. La santé, les retraites sont administrées par les privés. L'eau est privatisée. C'est un des pays du monde, je crois qu'ils sont trois dans le monde, qui sont privatisés. Donc, il y a un coût de la vie vraiment qui est très haut et c'est vraiment, on a de la peine d'arriver à la fin du mois. Moi, je suis professionnelle et j'ai de la peine d'arriver à la fin du mois et j'imagine les ouvriers, les travailleurs, ça doit être encore beaucoup pire. Et puis, il y a un deuxième aspect que c'est l'inégalité. C'est le 1% des plus riches, les 3% des richesses du pays. Il y a un pillage des riches qui n'est pas puni. Le pillage des pauvres, oui, il est puni. Il y a trop d'abus. Donc, je pense que c'est ce malaise qui a fait déclencher avec l'augmentation du ticket du métro que tu dis, bon, c'est pas beaucoup, c'était 30 pesos. C'était vraiment, je crois que ça correspond au 4% du prix du transport. Mais c'est comme ils disent ici au Chili, que je pense que c'est une phrase que maintenant est partout, c'est la goutte qui a débordé le verre. C'est la petite chose qui a déclenché cette colère sociale. Donc c'est là, moi je pense que c'est là la racine de cette colère. Ah, maintenant, le fait que le président ait décrété le couvre-feu, l'état d'urgence, et qu'il ait dit qu'on était en guerre, bien sûr, ça te met encore plus en colère. Je pense que pour tout le monde, c'était comme ça. Et moi, en temps émotif, tu disais, mais ce n'est pas vrai maintenant. En plus, ils nous augmentent le ticket du métro. La vie est hyper chère. On n'arrive pas au fin du mois. Et maintenant, ils disent en plus qu'on est en guerre. Donc, oui, je pense que c'est, comme on dit ici au Chili, il a mis encore plus du bois dans le feu. Mais je pense que c'est un peu les deux choses. À la base, il y a vraiment un malaise social. Je pense qu'il y a 30 ans qu'on est là et puis vraiment, on augmente. Ici, on paye tout. Tu dois tout est payé. Tout est privatisé. Toute ta vie est privatisée. En Suisse, moi, je me rappelle, mais pas tout est privatisé. Tu vas au cycle, tu as une éducation qui est gratuite. L'État la paye. Ici, tu ne peux pas. Il y a une éducation qui est publique. mais elle est très mauvaise. Donc moi, par exemple, pour que ma fille ait une éducation moyenne, même pas l'éducation publique de la Suisse, elle n'arrive pas encore là, je dois payer un tiers de mon salaire. Donc j'arrive à la fin du mois vraiment avec de la peine. Et puis je suis d'une classe moyenne professionnelle. Donc imagine-toi pour les plus pauvres.
C'est maintenant Jorge qui t'interroge, qui te questionne.
Oui, Roxana, on sait que pendant la dictature, le régime a installé un système économique libéral extrêmement fort, enfin très radical dans son libéralisme, un système économique et social qui perdure aujourd'hui, qui a été porté pendant ces 30 années qu'on appelle de la transition, par des gouvernements de centre-gauche, des gouvernements de droite, ils s'alternent pour maintenir à flot ce système. J'ai une question un peu provocante à ce sujet, et j'aimerais connaître ton avis. Est-ce que tu as... Moi, j'ai été étonné de cette réaction de la part de Sebastián Piñera de décréter l'état d'urgence et le lendemain le couvre-feu. Des mesures qui, en termes d'image, sont désastreuses pour une image du pays qui s'est construite comme un pays de stabilité, un pays respectueux, exemplaire en matière de droits de l'homme après avoir été exemplaire dans le sens inverse. Est-ce que tu as l'impression que les pouvoirs de centre-gauche gèrent mieux le mécontentement social que les gouvernements de droite ? Alors que c'est le même système.
Complètement. Complètement. La gauche ou les gouvernements de centre-gauche gèrent mieux parce qu'on vit avec l'espoir. Quand la ex-présidente Michelle Bachelet, elle était présidente, on avait tous, on avait l'espoir que ça allait changer. Tu sais, ils jouent un peu avec l'espoir des personnes parce qu'on pense que comme elle était de centre-gauche, son père, il a été tué par la dictature. Elle-même, elle a été prisonnière pendant la dictature. Tout le monde pensait qu'elle allait faire quelque chose. Donc, on a vécu un peu avec cet espoir. On dit ici qu'on check en blanc. Quoi.
Un chèque en blanc.
Un chèque en blanc. Mais Piñera, quand il est arrivé au gouvernement, il a fait beaucoup de promesses économiques très grandes, très lourdes, très bonnes, en fait. Et beaucoup de gens avaient l'espoir. Donc, bon, lui, il n'a pas cet aspect social, mais c'est un bon gesteur, c'est un entrepreneur. Donc, il va savoir gérer le pays. Les gens, ils sont vraiment endettés. Ici, c'est un des pays les plus endettés de l'Amérique latine. Donc, cette vie qu'on a en relation ou par rapport à l'Amérique latine, qu'on dirait qu'elle est beaucoup mieux, mais en fait, on est tous endettés. On est tous endettés. Donc, on avait l'espoir, ou les gens avaient l'espoir que Piñera, il allait être un peu plus dans ce sens-là, mieux que Bachelet. Mais ça n'a pas été comme ça. Et puis, mais je pense aussi en temps de tranquillité ou de paix sociale, bien sûr, que la gauche ou le centre-gauche gère mieux le pays parce qu'on vit avec l'espoir qu'ils vont faire quelque chose pour nous. Mais ces 30 années on nous montrent que ce n'est pas comme ça. Malheureusement, maintenant, il n'y a aucun parti politique qui peut canaliser ce malaise social ou cette colère sociale vers un chemin. On ne voit pas encore une sortie.
Tu parlais tout à l'heure de la Suisse, tu comparais avec la Suisse. Il y a quelque chose de curieux au Chili, c'est que pendant que l'armée patrouille et tire des balles en caoutchouc sur la foule. D'ailleurs, parce qu'ils tirent des balles en caoutchouc, on a l'impression qu'ils se sentent autorisés à tirer comme ils veulent. Donc il tire il patrouille dans la ville, dans les villes, il terrorise la population. Et en même temps, le Parlement fonctionne. Et le gros paradoxe, c'est que pendant qu'on tirait dans la ville, il y avait un débat sur les 40 heures de travail hebdomadaire. Un truc dont on rêve en Suisse. Hein. Le peuple suisse a voté plusieurs fois sur les 40 heures. Il refuse de travailler 40 heures. Alors, il y a une sorte de paradoxe de violence qui fait que la violence, on dirait que la violence de la répression côtoie aussi au même temps des mécanismes de négociation de négociation sociale et que ça fonctionne. Mais comment expliquer ce paradoxe?
C'est quand même bizarre aussi pour nous que le Parlement continue à travailler. Je pense que tout le monde est un peu perdu, ils savent pas quoi faire, si bien ils disent, la classe politique dit qu'ils ne savaient pas, que c'était une grande surprise. Ce n'est pas vrai, parce que ça fait depuis des années qu'il y a des petites manifs pour une chose, une manif pour autre, pour l'éducation, pour la santé, pour les retraites. Mais je pense que cette colère sociale, c'est parce que c'est tous les sujets qui se sont unis. Mais bien sûr qu'il y a eu beaucoup de manifs avant. Mais je pense que la classe politique est complètement dans un autre monde. Tu dois penser que le salaire minimum est le salaire de la classe politique est 30 fois plus grand que le salaire minimum. C'est comme si, un ouvrier gagne 1000 francs en Suisse et puis eux, ils gagnent 30 000. C'est pas possible. C'est une différence trop grande. Donc, eux, vraiment, ils vivent dans un autre monde. Moi, je pense qu'ils vivent vraiment dans un autre monde. Et ils ont aussi peur, parce que une des choses qui demandent les gens, c'est qu'ils baissent leur salaire, qu'ils fassent leur boulot aussi, tu sais, leur travail. Donc, il y a un questionnement, comme on dit.
Un questionnement.
Un questionnement aussi à la classe politique. Nous, on ne comprend pas comme eux, ils continuent à travailler. C'est vraiment incroyable. Il y a 18 morts, 3000 détenus, plus de 1000 blessés. Une grande manif et ils continuent à travailler. Bien sûr, c'est incroyable. Pour nous aussi, tu sais. C'est pour ça. Maintenant, il y a un autre slogan qui dit, bon, tout le monde doit s'en aller. Il faut qu'ils s'en aillent aussi. Mais moi, je pense qu'on doit... C'est pas bien non plus que tout tombe, parce que sinon il n'y a pas de solution. On doit arriver à un nouveau pacte social. Tu sais, on a besoin d'un nouveau pacte social, parce que l'ancien pacte social, il s'est fait, comme on dit ici, entre quatre murs, entre eux, entre la classe politique. Ils se sont mis d'accord sur beaucoup de choses. Et puis le mouvement social, les gens, ils sont restés dehors de ce pacte social. On a vraiment besoin cette fois que le nouveau pacte social intègre les mouvements sociaux et les mouvements sociaux et les gens. Ce pacte social doit incorporer toutes les demandes des personnes, parce que l'ancien pacte social ne les incorporait pas.
Je voulais aussi poser une question. tu sais, Roxana, que lors de la dernière élection présidentielle, où Sébastien Pineda a été élu, c'était la première fois que les Chiliens de l'extérieur pouvaient exercer leur vote. Et du coup, il y a eu une forme de politisation nouvelle ici, parmi les Chiliens de l'extérieur, notamment à l'issue des élections qui ont eu lieu donc fin 2017. Nous avons essayé de réfléchir sur le retour de la droite au Chili, notamment... sous le titre, sous l'idée que la droite était revenue pour rester longtemps. Et on essayait de s'interroger sur quelle pouvait être la nouvelle stratégie de cette droite pour rester. Notamment, il y a cette idée de déploiement de trois types différents de droite. La droite vraiment la plus récalcitrante, la plus réactionnaire, qu'on pourrait même appeler extrême droite, représentée par le candidat Cast, la droite, on va dire, classique, totalement néolibérale, moins d'État, celle connue, justement, comme tu as dit, la droite des entrepreneurs, incarnée, disons, donc, par Sébastien Piñera. Même une droite, cette droite-là, entrepreneuriale, qui prétend ne jamais avoir été en faveur de la dictature, une droite moderne.
Libérale.
Effectivement, libérale, et puis peut-être soutenue par ce petit parti embryon qui est en train de naître, qui s'appelle Evopol, qui n'est pas vraiment le parti de Sébastien Piñera, mais qui est peut-être l'embryon de cette droite moderne, qui est aussi en faveur des droits, de tout type de liberté, le droit, les droits du mariage pour tous, par exemple, etc., ce genre de choses. Et une troisième droite, une droite sociale, incarnée par l'autre candidat de droite qui s'était présenté aux primaires, donc Ossandón, et qui aussi, ces derniers temps, a eu des déclarations sur le fait que ça fait longtemps qu'il expliquait au président qu'il y avait ce malaise social dont tu parles. Depuis la prise de possession, donc c'était 2018, pour plusieurs raisons, mais il y a eu une forme de sécheresse législative. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun projet pratiquement qui a été débattu au Parlement, aucune des promesses des temps meilleurs, tiempos mejores, n'arrivait. Et tout d'un coup arrive cette situation, décret d'état d'urgence, pratiquement tout, on dirait que c'est là qu'a surgi le débat législatif tout d'un coup. Tout le monde a commencé à sortir des idées. Tout d'un coup, c'était très rapide de faire une loi pour permettre au président d'annuler la hausse du tarif du métro, par exemple. Ça s'est passé très vite lundi, les 40 heures. Il y a même, au niveau d'un projet dans des commissions, la baisse des salaires des députés. On dirait que tout ça s'est accéléré, étrangement, alors qu'avant, c'était bloqué, avec la participation des votes du centre, de la droite, j'ai l'impression. En fait, ma question, c'est est-ce que la droite a 10 pas d'avance sur le peuple et sur le mouvement social? Est-ce que tout ça n'a pas été planifié depuis un petit moment?
Bon, écoute, je suis complètement d'accord avec les trois droites, ce que tu dis. Caste, c'est un peu Bolsonaro, c'est un peu le même discours, une droite très conservatrice, anti... Après, il y a cette Piñera, l'entrepreneur, le libéral, et cette droite sociale. La droite sociale, moi, je pense que c'est une des plus dangereuses, je ne sais pas si le dire comme ça, mais ici au Chili, au moins, c'est encore une droite sans organisation. Si bien Ossandón, il appartient à un parti, à Renovación Nacional, il a toujours été un peu isolé, lui, dans son parti. Donc, il n'a pas une organisation. Donc, c'est un populisme, je dirais, c'est un populiste. Mais beaucoup de gens l'aiment, hein, tu sais, beaucoup de gens l'appuient, surtout des secteurs populaires. Moi, je pense que bien sûr, c'est la droite a gagné. La droite, elle va 10 pas plus qu'on avance. Je suis complètement d'accord avec cette phrase. Ils sont beaucoup plus organisés et intelligents que nous. Que je dis nous, le secteur plus de gauche, bien sûr. En fait, toute cette colère sociale, les émeutes et tout ça, c'est pas organisé par la gauche, c'est pas organisé ni par les syndicats, ni par les mouvements sociaux, c'est complètement spontané. Et donc, oui, la droite, elle est beaucoup plus en avance, mais on a la possibilité aujourd'hui, avec ces émeutes sociales, de faire quelque chose, parce que c'est des émeutes anti-système. Oui, c'est des émeutes anti-système. Maintenant, on a vu ce matin, moi j'ai vu les tweets de Piñera et de tous les secteurs de droite, tous, ils appuient les manifestations maintenant. Oh oui, on a écouté le mécontentement des gens, on va construire un pays beaucoup plus juste, etc. Et tu dis, mais ils sont vraiment rapides. Bon, ils ont été lents pendant ces 2 semaines, c'est vrai. Ils ont commis des erreurs, oui, des graves erreurs, mais ils sont plus intelligents. Mais surtout, ils sont beaucoup plus intelligents parce que nous, on est très longs et on est très désunis. Je pense qu'on a besoin d'une alliance sociale beaucoup plus grande. Mais malheureusement, la gauche, toujours, elle lutte pour des petites choses encore, tu sais, entre eux. Donc, je pense que moi, avec El Frente Amplio, j'avais beaucoup d'espoir, mais je pense que c'est une génération encore jeune. On a l'opportunité maintenant de faire quelque chose. Et puis, bon, je ne sais pas si on va être à l'auteur, disons, de faire ce qu'on a, on a vraiment besoin. Mais oui, moi, je pense que la droite dans ce pays, elle est beaucoup plus intelligente. Elle a le pouvoir aussi. Hein. Donc, elle a le pouvoir des médias, elle a le pouvoir économique, elle a le pouvoir de pressionner les gens. Donc pour gagner, on doit être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus rapide. Et puis, effectivement, maintenant, au Parlement, ce que tu disais du dépannage législatif, oui, il y a beaucoup de projets qui, maintenant, ils se sont faits express, très vite, parce que je pense qu'ils veulent aussi sauver leur peau. Ils veulent sauver aussi un peu le système qui les a maintenus tous ces 30 ans.
Roxana, est-ce que tu as l'impression que la manifestation géante d'hier va un peu faire évoluer les choses, malgré le fait que tu dis qu'elle est spontanée, qu'elle n'est pas organisée? Est-ce que tu crois que c'est un moment spectaculaire, une sorte de sommet de l'émotion, ou est-ce que ça annonce quelque chose de plus, ça pourrait annoncer quelque chose de plus profond?
Oh oui, moi je pense que c'est un point d'inflexion. Moi je pense que oui, parce que c'est la prise de conscience. Tu sais, c'est comme maintenant les écologistes. Tu sais, maintenant tu jettes un papier dans la rue et puis tu avances deux pas et puis tu dis merde, je peux pas le laisser dans la rue, c'est pas bien. Tu sais, c'est pas, et tu reviens puis tu le ramasses. Ben, c'est la même chose. Maintenant il y a une prise de conscience tellement grande des gens. Un ras-le-bol et une prise de conscience, c'est tellement grand que je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas maintenant reculer. Il n'y a pas, on ne peut pas, parce que tout le monde dit il faut normaliser le pays, on veut retourner au normal. Et tout le monde dit on ne veut pas retourner à ce qui était normal le mois passé, parce que maintenant on ne peut plus retourner dans cette normalité. On veut une autre normalité. Et moi, je pense qu'il y a une prise de conscience tellement grande de qu'on ne peut pas jeter les papiers dans la rue, tellement grande qu'on ne va pas reculer. Les gens savent, je pense que tout le monde savait tous les abus qu'il y avait ici au Chili par rapport à tous les aspects de la vie, mais on se taisait, on restait en silence. On le disait dans notre famille, dans les amis, on le chuchotait ici, par là. Mais ce n'était pas une expression sociale. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à tel point qu'on l'a exprimé socialement. Et puis, peut-être, on peut, bien sûr, tous ces mouvements, on se fatigue. Moi aussi, je suis fatiguée, je suis sortie tous les jours manifester. Aujourd'hui, je suis à la maison. Vraiment, j'ai pas envie d'aller manifester de nouveau. Ma fille, elle a 17 ans, non plus, elle a pas envie, elle a été tous les jours. Mais et peut-être, on va se fatiguer ce mois-ci. Mais en décembre, ça va revenir. Rappelez-vous que maintenant, ça vient la COP 25, ici au Chili.
Oui.
Et je pense qu'il va y avoir aussi des grandes manifs. Donc, je pense que ici, c'est un point d'inflexion. On va pas reculer parce qu'il y a une prise de conscience que tout le monde pense la même chose. Et puis, on peut changer les choses. On a la possibilité de changer les choses. Donc, je pense qu'on ne va pas revenir en arrière. En plus, il y a une grande chose, tu sais, maintenant, les réseaux sociaux, vraiment, c'est fantastique. La télé, vraiment, ils disent une chose, et puis les réseaux sociaux, ça parle autre chose. Donc, et puis, tout, bon, comme vous, tous les médias alternatifs aussi. Donc, maintenant, il n'y a pas un cercle informatif.
Censure médiatique.
Une censure, il n'y a pas maintenant. On peut s'organiser avec les Natel, on peut faire plein de choses. Donc, je pense que c'est une situation historique très différente à 40, 50 ans en arrière. Tout, Twitter, Facebook, Instagram, ils nous aident beaucoup pour organiser les gens et nous organiser sans les partis politiques. Bien sûr que je pense qu'il y a besoin des mouvements politiques et des partis, mais pour cette phase, je pense que ça a très bien marché.